Intermède. L'âne et Shonaï, Taravangiane. Intermède 12. L'âne. Félicitations, déclara frère l'âne. Vous avez réussi à obtenir le métier le plus facile au monde. La jeune ardente fit la moue et le jaugea de la tête aux pieds. De toute évidence, elle ne s'était pas attendue à ce que son nouveau mentor soit rondelet, légèrement ivre et en train de bâiller. Vous êtes l'ardent supérieur à qui on m'a affecté ? Auquel on m'a affecté, rectifia frère l'âne en passant un bras autour des épaules de la jeune femme. Vous allez devoir apprendre à vous exprimer scrupuleusement. La reine Essoudane aime se sentir entourée de gens raffinés. Ça lui donne le sentiment de l'être à son tour. Ma tâche consiste à vous former sur ce genre de détails. Je suis ardente ici, à Collinard, depuis plus d'un an, répondit la femme. Je ne crois pas vraiment avoir besoin qu'on me guide.
« Oui, oui, » répondit frère l'âne en la précédant pour franchir l'entrée du monastère. « C'est simplement, vous comprenez, que vos supérieurs affirment que vous avez peut-être besoin de consignes supplémentaires. Se voir affecté à l'escorte de la reine elle-même est un privilège extraordinaire. Un privilège, ai-je cru comprendre, que vous avez demandé avec une certaine persévérance. »
Tandis qu'elle marchait à ses côtés, chacun de ses pas dévoilait sa réticence, à moins qu'il ne s'agisse de confusion. Ils entrèrent dans le cercle des souvenirs, une pièce circulaire équipée de 10 lampes murales, une pour chacune des anciens royaumes des âges. Une 11e lampe représentait la cité Sérénide, et une grande serrure cérémoniale sertie dans le mur illustrait le besoin pour les ardents d'ignorer les frontières et de scruter seulement le cœur des hommes. Ou quelque chose dans ce genre-là. En toute franchise, ils ne savaient pas trop. À l'extérieur du cercle des souvenirs, ils entrèrent dans l'un des passages couverts reliant les bâtiments du monastère, tandis qu'une pluie fine tombait sur les toits. La dernière partie des passages, la promenade ensoleillée, offrait une vue magnifique de Collinard, du moins par une journée dégagée. Même aujourd'hui, l'âne distinguait une grande partie de la ville. Car le temple, comme le haut palais, occupait une colline au sommet plat. Certains affirmaient que le Tout-Puissant lui-même avait dessiné Collinard dans la roche, évidant des sections de sol à l'aide d'un doigt agile. L'âne se demanda quel était son degré d'ivresse à l'époque. Oh, la cité était belle, mais de la beauté d'un artiste pas tout à fait sain d'esprit. La pierre prenait la forme de collines onduleuses et de vallées aux pentes abruptes. Et lorsqu'on la taillait, elle dévoilait des milliers de strates éclatantes, rouges, blanches, jaunes et oranges. Les formations les plus majestueuses étaient les lames du vent, d'énormes arêtes rocheuses incurvées qui traversaient la ville. Magnifiquement alignées avec des strates colorées sur les côtés, elles s'enroulaient encore, se soulevaient et retombaient selon des schémas imprévisibles, comme des poissons sautant hors de la mer. Tout ça était censé être lié à la façon dont les vents soufflaient à travers la zone. Il comptait réellement se mettre à en étudier la raison. Un de ces jours. Tandis que l'âne escortait la jeune fille, comment s'appelait-elle déjà ? Des pieds chaussés de pantoufles marchaient doucement sur le marbre luisant, accompagnant le bruit des pluies. « Regardez cette ville, » dit-il. « Tout le monde doit y travailler, même les pâles iris. » Il y a du pain à cuire, des terres à surveiller, des pavés à... Pavés ? Damnation ! Quel verbe est-ce qu'on utilise pour les pavés ?
Je n'en sais rien, répondit la jeune femme tout bas.
En tout cas, ça n'a aucune importance pour nous, vous comprenez. Nous n'avons qu'une tâche, et elle est facile, servir la reine.
Ce n'est pas une tâche facile.
Mais si, protesta l'âne. Tant que nous la servons tous de la même manière, d'une manière très... prudente.
Nous sommes des flagorneurs,
répondit la jeune femme en contemplant la ville.
Les ardents de la reine ne lui disent que ce qu'elle veut entendre.
Ah ! Nous voilà donc au cœur du sujet.
L'âne lui tapota le bras. Comment s'appelait-elle déjà ? On le lui avait dit.
Paille. Ce n'était pas un nom très alléti. Sans doute l'avait-elle choisi lorsqu'on l'avait nommée ardente. Ça se produisait parfois. Une nouvelle vie, un nouveau nom, souvent très simple.
« Voyez-vous, Paille !» dit-il en l'étudiant pour voir si elle réagissait.
Oui, c'était apparemment le bon nom. Sa mémoire devait s'améliorer.
« Voilà ce dont vos supérieurs voulaient que je vous parle. Ils craignent, si vous n'êtes pas correctement instruite, que vous suscitiez toute une tempête, ici, à Collinard, et personne ne le souhaite. »
Paille et lui croisèrent d'autres ardents le long de la promenade ensoleillée, et l'âne les salua d'un signe de tête. La reine avait beaucoup d'ardents, vraiment beaucoup.
« Je vais vous expliquer, » poursuivit l'âne. « La reine, elle redoute parfois de mécontenter le Tout-Puissant. »«
À juste titre, » répondit Paille.
« Elle, taisez-vous pour l'instant, » l'interrompit l'âne en grimaçant. « S'il vous plaît, taisez-vous, écoutez-moi. » La reine estime que si elle traite correctement ses ardents, elle gagnera ses faveurs auprès de celui qui crée les tempêtes, pour ainsi dire. Tant qu'elle estime être sur la bonne voie, nous obtenons beaucoup de choses, de la nourriture fine, de belles robes, des appartements fantastiques, du temps libre pour faire tout ce que nous souhaitons.
Notre devoir consiste à lui donner la vérité.
C'est ce que nous faisons. Répliqua l'âne. Elle est l'élue du Tout-Puissant, n'est-ce pas? L'épouse du roi Elokar, qui règne, tant qu'il est au loin pour livrer une guerre sacrée destinée à chasser les régicides dans les plaines brisées. Sa vie est très dure.
Elle donne des banquets chaque soir,
murmura Paille. Elle se livre à la débauche et aux excès. Elle gaspille de l'argent pendant qu'Aletkar dépérit.
Les gens des villes extérieures meurent de faim pendant qu'ils envoient de la nourriture ici, en croyant qu'elle sera transmise à des soldats qui en ont besoin. Elle pourrit parce que la reine ne prend pas cette peine.
« Ils ont de la nourriture en abondance dans les plaines brisées, » répondit l'âne. « Ils ont des gemmes par-dessus la tête, et personne ne meurt de faim ici non plus. Vous exagérez. La vie est agréable. »
Pour la reine et ses larbins, oui. Elle a même annulé la fête des mendiants. C'est répréhensible.
L'âne gémit intérieurement. Celle-ci allait lui donner du mal.
Comment la convaincre? Il ne voulait pas que cet enfant fasse quoi que ce soit qui la mette en danger. Ni lui, d'ailleurs. Surtout lui.
Ils entrèrent dans l'aile est grandiose du palais. Ses colonnes sculptées étaient considérées comme l'une des plus grandes œuvres d'art de tous les temps. Et l'on estimait leur origine antérieure aux jours obscurs. Les dorures du sol étaient astucieuses, de l'or luisant placé sous des rubans de cristal spiricantés. Ils se faufilaient entre les mosaïques du sol comme de petits cours d'eau. Le plafond avait été décoré par O'Lelen en personne, le grand peintre ardent, et représentait une tempête soufflant depuis l'est.
Tout ça aurait pu n'être que du Crémon dans un caniveau, pour toute la déférence que ça inspirait à Paille. Elle ne semblait voir que les ardents qui allaient et venaient d'un pas nonchalant en contemplant toute cette beauté. Et en mangeant. Et en composant de nouveaux poèmes pour sa majesté, même si, en toute franchise, l'âne évitait ces choses-là. Elle semblait demander beaucoup de travail. Peut-être l'attitude de Paille provenait-elle d'une jalousie résiduelle. Certains ardents enviaient les favoris personnels de la reine. Il tenta de lui expliquer certains des luxes qui étaient désormais les siens. Les bains chauds, l'accès aux chevaux de l'écurie personnelle de la reine, la musique et les arts. L'expression de Paille s'assombrissait à chaque élément. Flûte, ça ne fonctionnait pas. Changement de tactique.
« Tenez !» dit l'âne en la conduisant vers les marches.
« Je veux vous montrer quelque chose. »
Les marches descendaient en traversant le complexe palatial selon un trajet sinueux. Il adorait cet endroit, dans ses moindres éléments. Ses murs de pierre blanche, ses lampes à sphère dorée, et puis son âge. Collinard n'avait jamais été mis à sac.
C'était l'une des rares cités de l'Est qui n'ait pas subi ce sort lors du chaos qui avait suivi la chute de la hiérocratie. Le palais avait brûlé à une occasion, mais l'incendie s'était éteint après avoir consumé l'aile Est. On appelait ça le miracle de Rainer, l'arrivée d'une tempête majeure pour éteindre le feu. L'âne aurait juré que le palais dégageait une odeur de fumée, 300 ans plus tard. Et puis... Ah oui, la jeune fille. Ils continuèrent à descendre les marches et finirent par rentrer dans les cuisines du palais. Le déjeuner avait pris fin, ce qui n'empêcha pas l'âne, au passage, de s'emparer sur le comptoir d'un plateau de pain frit à la mode herdazienne. De la nourriture était disposée en abondance pour les favoris de la reine, qui pouvait être pris d'un petit creux à n'importe quel moment. La flagornerie en bonne et due forme pouvait vous ouvrir l'appétit. « Vous essayez de me piéger avec de la nourriture exotique ?» demanda Paille. « Depuis 5 ans, je ne mange qu'un bol de talieu bouilli à chaque repas, avec un fruit, lors des grandes occasions. Ça ne me tentera pas. »
L'âne s'arrêta net. « Vous n'êtes tout de même pas sérieuse !» Elle hocha la tête. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Elle rougit.
« J'appartiens aux dévotaires de négation. Je souhaitais faire l'expérience de la séparation des besoins physiques de mon... »«
C'est encore pire que je ne le croyais !» répondit l'âne, qui la prit par la main pour l'entraîner à travers les cuisines.
Près du fond, ils trouvèrent la porte qui donnait sur la cour de service, où les fournitures étaient livrées et les ordures emportées.
Là, abrités de la pluie par un auvent, ils trouvèrent des piles de nourriture auxquelles personne n'avait touché.
Paille eut un hoquet. Quel gâchis! Vous m'amenez ici pour me convaincre de ne pas soulever une tempête? Vous faites exactement le contraire.
Il y avait autrefois une ardente qui prenait tout ça pour le distribuer aux pauvres, répondit l'âne. Elle est morte il y a quelques années. Depuis, les autres se sont quelque peu efforcés de s'en occuper. Pas beaucoup, mais un peu. La nourriture finit par être emportée, pour être généralement déposée sur la place pour que les mendiants se servent. À ce stade, elle est en grande partie gâtée.
Sainte bourrasque, il sentait presque physiquement le feu de sa colère.
Cela étant, poursuivit l'âne, s'il y avait parmi nous une ardente qui ne désirait rien d'autre que de faire le bien, imaginez tout ce qu'elle pourrait accomplir. Rendez-vous compte, elle pourrait nourrir des centaines de personnes rien qu'avec ce qu'on laisse se gâcher.
Paille étudia les piles de fruits pourrissants, les sacs ouverts de céréales à présent gâtés par la pluie.
« Maintenant, reprit l'âne, imaginons le contraire. Si une ardente cherchait à reprendre ce que nous possédons, eh bien, que risquerait-il de lui arriver ?
Est-ce une menace ? Demanda-t-elle d'une voix douce. « Je ne crains pas la douleur physique. »«
Nom des foudres !» répondit l'âne. « Vous croyez que nous... Jeune fille, je demande à quelqu'un d'autre de m'enfiler mes pantoufles le matin. Ne soyez pas stupide. Nous n'allons pas vous faire de mal. Ça demande trop de travail. » Il frissonna. « On vous expulserait, rapidement et discrètement.
Je ne le crains pas non plus. »
« Je doute que vous craigniez quoi que ce soit, » répondit l'âne, « à part peut-être vous amuser un peu. Mais à quoi servirait-il que l'on vous chasse? Nos vies ne changeraient pas, la reine non plus, et toute cette nourriture se gâterait de la même manière. En revanche, si vous restez, vous pourrez accomplir le bien. Qui sait? Peut-être votre exemple nous aidera-t-il tous à nous amender ?»
Il lui tapota l'épaule. « Réfléchissez-y quelques minutes.
Je vais aller finir mon pain. »
Il s'éloigna, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule à plusieurs reprises. Paille s'installa près des piles de nourriture en train de se gâter et les regarda fixement. L'odeur fétide ne semblait pas la déranger. L'âne la regarda depuis l'intérieur jusqu'à ce qu'il commence à s'ennuyer. Lorsqu'il rentra de son massage de l'après-midi, elle était toujours là. Il prit son dîner dans la cuisine, qui n'était pas extrêmement luxueuse. La jeune fille s'intéressait beaucoup trop à ces tas de détritus. Enfin, quand le soir tomba, il s'approcha d'elle d'un pas tranquille. « Vous ne vous posez même jamais de questions ? demanda-t-elle en regardant fixement ces tas d'ordures, avec la pluie qui tambourinait derrière elle.
« Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir au coût de votre gloutonnerie ?»«
Quel coût ? » demanda-t-il.
« Je vous ai dit que personne ne mourrait de faim parce que nous... »«
Je ne vous parle pas du coût monétaire, » murmura-t-elle. « Je parle du coût spirituel, pour vous, pour ceux qui vous entourent. Tout ça est mal. »
« Oh, ce n'est pas si grave, » répondit-il en s'installant à côté d'elle.
« Mais si, l'âne, c'est un problème qui va bien au-delà de la reine et du gaspillage de ses banquets. »
Ce n'était guère mieux avant, avec les chasses du roi Gavilar et les guerres qui opposaient les principautés entre elles. Les gens entendent parler de la gloire des batailles livrées dans les plaines brisées,
des richesses qui s'y trouvent, mais rien de tout ça ne se matérialise jamais ici. Y a-t-il encore quiconque parmi l'élite halétique qui se soucie du Tout-Puissant ? D'accord, ils parlent des héros, brûlent des charmes glyphiques, mais que font-ils concrètement ? Changent-ils leur vie ? Écoutent-ils les arguments ? Se transforment-ils, refaçonnent-ils leur âme en quelque chose de plus grand, de plus élevé ?
Ils ont des vocations, répondit l'âne en agitant nerveusement les doigts.
Est-ce qu'on appelait ça digiter ? Les dévotaires les aident. Elle secoua la tête.
Pourquoi ne nous parle-t-il pas, l'âne ? Les héros affirment que nous avons vaincu les néantifères, qu'à Arietam était la grande victoire de l'humanité. Mais n'aurait-il pas dû les envoyer nous parler, nous guider ? Pourquoi ne sont-ils pas venus pendant la hiérocratie pour nous dénoncer ? Si ce que faisait alors l'Église était si mal, où était la parole du Tout-Puissant pour s'y opposer ?
Vous ne suggérez tout de même pas que nous y revenions ?
Il tira son mouchoir et s'en tamponna le cou et le crâne.
Cette conversation ne faisait qu'empirer.
« Je ne sais pas ce que je suggère, » murmura-t-elle. « Je sais seulement que quelque chose ne va pas. Tout ça est tellement anormal. »
Elle se tourna vers lui, puis se releva.
« J'ai accepté votre proposition. »«
Ah oui ?»«
Je ne vais pas quitter Collinard, » répondit-elle. « Je vais rester ici et faire le bien dans la mesure de mes capacités. »«
Vous n'attirerez pas d'ennui aux autres ardents ?»«
Ce ne sont pas les ardents qui me posent problème. » répondit-elle en lui tendant la main pour l'aider à se lever. « Je vais simplement tenter de donner un exemple que tous pourront suivre. »«
Très bien. Ça me semble un bon choix. »
Elle s'éloigna et il s'épongea le crâne. Elle n'avait pas promis, pas exactement. Il ignorait dans quelle mesure il aurait dû s'en inquiéter. Il s'avéra qu'il aurait dû beaucoup s'en inquiéter.
Le lendemain matin... Il entra en titubant dans la maison du peuple, un grand bâtiment ouvert dans l'ombre du palais où le roi ou la reine écoutaient les doléances de la foule. Un groupe murmurant d'ardents horrifiés se tenait juste à l'entrée. L'âne en avait déjà entendu parler, mais il fallait qu'il le voie par lui-même. Il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à l'avant. Il trouva Paille agenouillée sur le sol, tête inclinée. Elle avait apparemment peint toute la nuit, inscrivant des glyphes sur le sol à la lueur des sphères. Personne ne s'en était aperçu. L'endroit était généralement verrouillé lorsqu'on ne s'en servait pas, et elle s'était mise au travail bien après que tout le monde s'était endormi ou enivré. 10 larges glyphes, écrits directement sur le sol de pierre, qui menaient à l'estrade sur laquelle reposait le trône populaire du roi. Les glyphes détaillaient les attributs qu'incarnaient les 10 fantasques. Près de chaque glyphe, un paragraphe rédigé dans l'alphabet féminin expliquait comment la reine illustrait chacun d'entre eux. L'âne lut ces mots, horrifié. Ce n'était pas une simple critique, c'était une condamnation du gouvernement tout entier, des pâles iris et du trône lui-même. Paille fut exécuté le lendemain matin. Les émeutes commencèrent ce soir-là.